Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panet du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
The year 2000. America is a vast speedway. People line the streets to witness the greatest drivers on earth in a race from sea to shining sea.
This is a death race.
You finish first, or not at all. Death Race 2000. Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale cinéma d'exploitation avec les derniers titres de la Midnight Collection, donc édité par Carlotta Film, hein, Death Race 2000 de Paul Bartel, Tourist Trap de David Schmoller, Inseminoid de Norman G. Warren, Wanted Dead or Alive de Gary Sherman. On parlera aussi du glauquissime Alice Sweet Alice sorti chez Rimini Édition, le film d'Alfred Solé. On parlera également, ça c'est édité chez l'Atelier d'Images, du sous-estimé Les Chiens de Guerre de John Irvine. Et enfin, on abordera un jalon important dans l'histoire de la K-horror, Soudain dans la nuit, de Jeo Yeong Nam, paru chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Blanche Aurore Duo, Sandrine Hiver, Lucie Mottier et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer exploitation, ben j'exploite des chroniqueurs. C'est comme ça, voilà. Et ils sont réunis dans ce studio. Hein. Il y a Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes non exploitées qui nous entendent.
Également présent, John Ferret, dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Hi John.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, constitue le dernier membre de cette équipe, mais the last but not the least, bien sûr, hein, le créateur de À l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est rédac-chef. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, salut John et bien évidemment salut à toutes.
Débutons cette émission par un pur film d'exploitation qui est vraiment un film que j'aime beaucoup, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a eu une carrière enchantée, qui était un acteur, qui a une parenthèse enchantée dans sa carrière, qui était un acteur sympathique, hein, Paul Bartel, mais qui surtout, sous l'égide de, un peu de Corman, avec des petits budgets, il a pu, en tant que cinéaste légèrement indépendant, on va dire un petit peu en tout cas, il a pu construire une série de 3-4 films vraiment excellent, totalement dans l'état d'esprit frondeur des années 70. Il y a Private Parts, hein, qui peut évoquer aussi pas mal De Palma, d'ailleurs. On est en 72, donc De Palma n'est pas encore connu. Hein, donc c'est vraiment... voilà, je pense qu'il est plus sous influence Hitchcock, et qui est vraiment très bon. Il y aura Cannonball en 76. Et puis... le summum de sa carrière, Eating Raoul en 1982. Bon, après, il va réaliser d'autres trucs. Mais en gros, il a écrit 3-4 films, et ceux-là en font partie. Et tout le reste était un peu alimentaire. Et surtout, il a réalisé un film qui est devenu culte avec le temps, qui est Death Race 2000. Voilà, Death Race 2000, je vais dire comme ça, voilà. Mais la course à la mort de l'an 2000. Voilà, la course à la mort de l'an 2000. Avec son égérie, Marie Vonorov, qui joue dans tous ses films, ou presque. Avec David Carradine, qui interprète un étrange pilote qui s'appelle Frankenstein. Bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. De toute façon, je vais passer la parole à mon ami Damien, qui a découvert donc cette course à la mort de l'an 2000, qui est donc une course organisée dans une Amérique devenue dictatoriale, un peu, voilà, c'est les jeux du cirque, hein, et cette course est une course où en fait les concurrents, dont Stallone d'ailleurs, hein, sont un tout jeune Sylvester Stallone, ont le droit de tuer. Donc voilà, ils roulent, s'ils tuent un enfant ça rapporte tant de points, un handicapé ça rapporte tant de points, voilà. Alors le film a connu un remake, donc c'est pour ça qu'on connaît un peu le principe, mais la charge politique, la férocité du premier film et le côté jouissif de ce film de Paul Bartel de 75, pour moi, ça fonctionne toujours.
C'est un film de SF dans un USA dystopique, comme tu l'as présenté, Jérôme. On retrouve, comme tu l'as dit également, Sylvester Stallone, un an avant qu'il fasse son Rocky, où il joue la mitraillette Joe Vitardo. C'est un film assez particulier, vu qu'au début, on pense que ça va partir sur un fou du volant version mortelle. On voit assez vite qu'il n'y a que 5 participants, se dire sur une heure, ça risque d'être compliqué. Mais on cible en méchant Frankenstein, parce qu'il a un peu une introduction à la Dark Vador, vraiment iconique dès le départ, et on comprend que c'est la même façon dont le public dans le film le voit, plus une fusée nazie qui est l'une des participantes, et on se dit que ce serait la principale menace. Et ensuite, on apprend un peu plus tard les règles, c'est-à-dire qu'il faut écraser des gens pour gagner des points, et on se dit que... ah oui, finalement, on n'est pas du bon côté du volant. Et face à ça, il y a une résistance qui se met en place pour essayer de les arrêter au fur et à mesure. Une résistance qui est assez calamiteuse, bizarre, qu'on n'a pas vraiment envie de soutenir non plus. Parce que même si leur combat à vouloir faire arrêter la course est sympathique, ils ont du mal à attirer vraiment un sentiment de compassion. Pour le développement de l'univers est assez étrange, c'est-à-dire qu'au début, on pose vraiment. Je trouve que les bases au début de la course et tout sont vraiment bien posées, et qu'une fois qu'ils sont posés, il y a quelque chose qui fait que le réalisateur se dit qu'il n'a pas vraiment besoin de développer tous ces univers. Et pour moi, on se perd dans la comédie, mais en même temps, c'est pas un film qui se voulait un grand film de science-fiction, mais je trouve qu'elle prend une emprise vraiment importante, comme si le film au final se lassait un peu de son histoire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on passe d'une comédie sanglante où au début tu as vraiment beaucoup de démembrements qui s'enchaînent avec du sang, et à la fin il perd un peu d'envie et ça enchaîne plutôt les explosions en mode on va tuer celui-ci dans une explosion, celui-ci dans une explosion. Mais sinon c'est un film que j'aime beaucoup, parce que je pourrais pas le dire, mais étrangement quand je l'ai regardé, la façon dont la dystopie est mise en place, ça m'a rappelé automatiquement Hunger Games, avec finalement ce pouvoir qui contrôle, qui organise des jeux pour la foule, où il sacrifie des gens alors qu'il est bien avant. Enfin, il y a différents trucs en SF qui existaient avant, mais je trouve qu'au niveau de l'esthétique, il y a vraiment un truc qui se rapproche, notamment avec ce côté religieux. Et Il y a un truc, le film dégage un truc. Et c'est pas seulement de la pollution, il dégage autre chose.
Ce truc particulier, mon cher Thomas, ne serait-ce pas le parfum des années 70?
Bah, c'est surtout le parfum des productions Roger Corman. On sent que le film est quand même un peu fauché. Je trouve que malgré sa courte durée, il y a des petites longueurs quand même. Mais le film, il vaut surtout par le fait que, pour moi, il préfigure les films de John Carpenter. Il y a une critique de l'Amérique et de cette façon qu'elle a de traiter les plus marginaux, les personnes âgées, les handicapés, etc., qui met en évidence un système social qui est quasiment inexistant. Et pour moi, cette critique des États-Unis et cette façon qu'il a de présenter le président des États-Unis, pour moi, c'est Los Angeles 2013, quoi. C'est exactement ça. Ça préfigure John Carpenter. Mais sinon, bon, le film est sympathique, mais je trouve qu'il est un petit peu mou parfois, hein.
Moi, c'est vraiment là, parce que j'avais vu ça quand j'étais ado. Et c'est vrai que je ne me rappelais plus du tout. Et le revoyant pour l'émission, j'ai pris un pied énorme. J'ai pris un pied énorme parce que, en prenant du recul, c'est subversif, c'est violent. Comme vous avez dit, Hunger Games ou même The American Nightmare doivent beaucoup, à mon avis, à ce film-là, parce qu'il y a dedans le présentateur est vraiment dément. On va, c'est-à-dire qu'il ne triche pas avec son envie, ce film-là. Il se veut être violent, subversif. Le discours est démago volontairement. Les USA avant tout. Alors il y a une petite partie sur les Français qui est assez étrange. Celle-là, je m'en rappelais plus. Et voire même chez les rebelles. Parce que les rebelles, on se dit, oui, ils sont mignons, c'est les rebelles, ceci, cela. Mais à la fin, on n'est même pas sûr à la fin que les rebelles restent des rebelles, notamment via leur porte-parole. Enfin, je veux dire, il y a tout un truc. Et je me suis même laissé prendre, parce que je ne me rappelais plus, Frankenstein, qui est présenté un peu comme l'ami du président, comme celui qu'il faut abattre d'ailleurs, cache bien son jeu. Il y a un érotisme torride qui est vraiment affolant. Vraiment, il y a tout ça. Et même si on prend encore plus de recul, on voit que toutes certaines franges de la population d'Amérique sont représentées. Stallone, qui représente un peu le bourrin américain, la frange nationaliste américaine représentée par les nazis. Enfin, tout ce concours dans cette Amérique comme ça, dictatoriale. Et je trouve qu'il y a un pied énorme. Et alors, ça fait vieux con de dire ça, c'est sûr. Mais c'est dommage parce qu'un film aussi subversif et violent comme ça, critique envers sa société, va être dur à faire maintenant. Mais c'est vraiment... Moi, ça m'a ravi de le revoir et de le redécouvrir.
Eh bien, John, je n'ajouterai rien à ce que tu viens de dire. Je pense tout pareil que toi. Moi, j'adore ce film. Et je lui pardonne ses petits défauts parce que c'est un petit film fauché, voilà, et qu'il ne pouvait pas faire autrement Paul Bartel. Mais j'adore ce film. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai vu un nombre incalculable de fois et que j'aime toujours autant. Autre film que j'aime bien, on va sortir de la Midnight Collection, on va les faire dans l'ordre, dans l'ordre chronologique, hein, voilà, après tout ça fonctionne aussi l'ordre chronologique. On va parler d'un film qui s'appelle Alice, Sweet Alice, ou Communion d'ailleurs, qui était je crois le titre de sa première exploitation, qui est un film d'Alfred Solé, avec une toute jeune Brooke Shields qui est pas très longtemps à l'écran mais qui explique que le film soit devenu un peu culte parce qu'après quand elle est devenue célèbre avec Le Lagon Bleu et compagnie, le film est ressorti plein de fois sous des titres différents parce qu'il y avait Brooke Shields dedans. Alors que bon, on vous le dit tout de suite, hein, Brooke Shields, elle meurt au bout de 10 minutes de film, elle n'est plus là, mais c'est pas grave. Mais un film effectivement, cette gamine interprétée par Brooke Shields, elle vit dans une famille où les parents sont séparés. La maman est campée par Linda Miller, qui est dans la vie, et la femme, quand même, ça ne s'invente pas, du père Carras dans L'Exorciste. Hein, dans la vraie vie, c'est sa femme. Voilà, qui est... Donc ça, c'est assez drôle. Cette jeune fille qui a été tuée, elle a une sœur, qui s'appelle Alice, qui est assez infecte, qui est assez étrange, qui est une gamine un peu perverse, comme ça, qui a un univers particulier, qui collectionne des fétiches, qui collectionne les cafards aussi, qu'elle met dans des bocaux, enfin, des trucs assez étranges. Elle est un peu étrange comme gamine, voilà. Et évidemment, comme elle n'est pas là, au moment où sa sœur doit communier, parce que ça se passe pendant la communion, et que sa sœur se fait tuer, qu'elle est balancée dans un coffre sous un fauteuil, et puis qu'on lui fout le feu, bon, elle est tout de suite soupçonnée, puisqu'elle elle a ramassé le voile de sa sœur, ou le voile d'une autre d'ailleurs, hein, qui communiait, mais bon, parce qu'elle elle veut absolument communier. D'ailleurs, c'est un truc, c'est presque un running gag dans le film, elle ne communiera pas du tout de tout le film, voilà. Mais elle veut absolument manger l'hostie. Hein, mais... et qui est interprétée par Paula Shepard, qui à l'époque déjà est à 19 ans, je crois, 18-19 ans, hein, donc elle est déjà grande, mais dans le film, elle a 13 ans, elle joue une petite fille de 13 ans. Et c'est vrai qu'elle est assez infecte, assez flippante comme gamine, et cette famille va être bouleversée par le meurtre de cette petite fille, pratiquée donc par quelqu'un qui porte ce ciré jaune, le même ciré jaune que Alice, et un masque un peu translucide de femme outrageusement maquillée, bien flippant, bien effrayant, et les meurtres vont se multiplier, y compris dans l'entourage de cette famille, ça va continuer, et évidemment Alice va être... soupçonné, mais méfions-nous des apparences dans ce film joyeusement anticlérical quand même, hein, qui se déroule dans la ville de Patterson, et en particulier qui nous décrit un peu ce qui se passe dans le diocèse de Patterson. Et ce qu'on apprend dans les bonus quand même, avant qu'on parle plus du film quand même, c'est quand même assez... assez jouissif de savoir ça. Ce qu'on apprend dans les bonus du DVD Blu-ray édité par Rimini, c'est qu'en fait, le réalisateur Alfred Solé, c'est son deuxième film. Et juste avant, Gilles Gressard nous dit ça dans les bonus, il a fait un film qui s'appelle Deep Sleep, qui était son premier film, qui est un film X. Et lui, il vient d'une communauté catholique comme ça. Donc, Patterson. Voilà. Et dans le New Jersey. Et il se trouve que ça vient aux oreilles des membres de cette communauté et il est excommunié. En vrai, hein, voilà, Alfred Solé est excommunié, donc il se définit lui-même comme un ex-catholique. Il est excommunié par le diocèse de Patterson, dont il nous donne une image quand même particulière dans ce film. Donc quelque part, ce film, c'est un peu sa vengeance. Voilà, c'est un peu sa vengeance, c'est assez drôle. Alfred Solé, qui tourne quand même, vraiment dans le petit cinéma d'exploitation, c'est un film qui coûte 350 000 dollars, donc qui est tourné sur une très longue période. Et dont les scènes de meurtre sont mises en scène par William Lustig, il faut le savoir, il fait appel à William Lustig, ce sont d'ailleurs des super scènes de meurtre, hein, voilà, et Lustig, hein, le réalisateur de Maniac, on va pas le présenter plus que ça, et dont la co-scénariste Rosemary Ridvo, faut savoir, et la voisine de Alfred Solé, elle fera que ça au cinéma dans sa vie. C'est sa voisine, il bossait avec elle sur le script parce qu'elle habitait à côté, c'était pratique, ils ont fait ça une fois, voilà. Et Alfred Solé va peu à peu disparaître des écrans, il va faire un film étrange, La Bête de l'amour, avec qui se passe sur une île tropicale où une femme, c'est un triangle amoureux entre un gorille, une femme et son mari qui la bat, voilà. Après, il fera un autre film que je n'ai pas vu, qui ne va pas fonctionner non plus. Et après, qui s'appelle Pandémonium. Et après, il se dirigera vers la télé, où là, il va faire une grosse carrière, et il est mort en 2022. Son dernier fait d'armes est quand même un truc qui ne s'imposait pas, le remake de MacGyver, mais qui a bien marché, hein, quand même, visiblement. Et en gros, voilà sa carrière. Et c'est bête, j'ai envie de dire c'est bête, parce que ce film, tourné en plus dans des conditions donc très compliquées, avec en plus... Il faut dire les choses, Linda Miller n'allait pas bien dans la scène finale qui se passe dans l'église, par exemple. Il faut savoir qu'elle a fait une tentative de suicide pendant le tournage de la scène, elle s'est tailladée les veines. Donc ils ont été obligés d'arrêter le tournage, tout ça, enfin, ça a été infernal. Donc un film très compliqué à tourner, très fauché. Moi, je ne le sens pas quand je vois le film. C'est un film qui m'a toujours plu, je l'ai découvert gamin sur la 5 de Berlusconi, un lundi soir dans Les Accords du Diable, vieux souvenir. Le film m'avait fait flipper. Bon, aujourd'hui, il me fait un peu moins flipper, mais je trouve qu'il garde ce côté malaisant, glauque. En plus, les meurtres, je pense que Thomas, il doit apprécier, sont très secs. C'est pas vraiment stylisé, c'est très réaliste. Enfin, il y a un parti pris à la fois très travaillé, mais très vériste en même temps, qui est très, très étrange. Et je trouve que le film fonctionne toujours très bien et que c'est un exemple parfait de ce que le cinéma d'exploitation peut produire en petit film horrifique, flippant. Et puis, c'est quand même un film qui vient avant beaucoup d'autres slashers. Voilà, donc c'est un peu un film qui s'inspire beaucoup du Psychose d'Hitchcock, hein, mais qui, qui, qu'il revisite et qui est un chaînon manquant, je dirais, entre Hitchcock et Carpenter.
Pareil, j'ai revu ça et ça m'a frappé, notamment déjà d'une le casting hein, et la protagoniste Alice qui est vraiment vraiment bien choisie, tant dans son jeu que dans son regard que dans ses intentions, ça c'est vraiment assez formidable. Il y a un truc qui m'a troublé, c'est que le film est réalisé en 76, mais il situe l'action dans les années 60 et avec deux trois fois d'ailleurs des gros plans sur les portraits de Kennedy. J'ai toujours pas trouvé la relation, mais c'est
pour fixer un moment, elle lit un journal où c'est marqué la victoire de De Gaulle. On est en 61, là. Le réalisateur parle de 61, lui, pour son film.
D'accord, ok. Donc, parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étrange. Mais ce que j'adore vraiment, c'est qu'Alfred Solé sait nous manipuler. J'ai vraiment adoré le plan final. Est magnifique. Il y a une ambiguïté du tueur qui est vachement bien faite. Et il y a des scènes, notamment la scène du meurtre de la sœur, qui est magnifiquement mise en scène. On n'a pas parlé, mais ça, c'est quand même assez incroyable. C'est le voisin qui a un côté malsain qui est vachement bien retranscrit, que Alice s'amuse à vraiment embêter. Il y a tout dans ce film-là et je suis étonné quand je t'entends, Jérôme, dire le film a coûté si peu, où le mec arrive à un résultat comme ça. Ça donne foi vraiment, encore une fois, d'une histoire d'époque, mais pour si peu, on peut faire quand même, peut-être pas un chef-d'œuvre ou un grand film de cinéma classique, mais tout du moins un film qui tient réellement la route et même en 2022, on peut dire encore que ça tient la route.
Le film est très surprenant, il a un second souffle où on se fait prendre, qu'importe ce qu'on en pense. Mais c'est parce qu'il a une introduction, une première partie vraiment solide. Vers la fin, elle souffle un peu parce qu'on repose, on part directement, on se repose sur les attentes, on s'imagine qu'on voit déjà ce qui va se passer. Et non, pas du tout. Le voisin est extrêmement malaisant, tu as raison, John. Il fait pas peur, on se doute qu'il va se passer un truc avec lui, mais il y a un truc où on veut le repousser, mais...
C'est un énorme pédophile, en fait. Voilà. Ouais. Bah, énorme au sens où il est gargantuesque, son physique, ouais. Il est pédophile. Et dans la vraie vie, il s'habillait en clown et il faisait des spectacles, je crois, en clown ou je ne sais plus quoi. Il récoltait de l'argent pour l'église. Mmh. Voilà. Donc ça rajoute à la charge anticléricale du film.
Ouais. La scène, le premier meurtre est extrêmement choquant. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y a un anorak jaune et qu'à cause de Jordi dans ça... C'est un truc qui me piège. Il y a aussi toute la dimension religieuse qui joue énormément. S'il voulait se venger de sa communauté, c'est réussi. Mais voilà, je trouve que c'est un film où, comme tu l'as dit, les scènes de meurtre sont marquantes. En fait, il y a plusieurs scènes qui sont marquantes, mais différemment. Toutes les scènes avec le voisin, le sorcier, les scènes de meurtre ont quelque chose d'assez... particulier dans... C'est peut-être dans la façon... C'est plus dans la façon dont les scènes de violence se produisent. Comme tu l'as dit, c'est vraiment très cru et ça fait... La dimension religieuse et enfantin qu'il y a derrière renforce la totalité, donne une structure violente et désagréable. Mais dans le bon sens, du coup.
Spécial cinéma d'exploitation.
Autre metteur en scène qui s'est créé des ambiances malaisantes, l'un des meilleurs poulains de l'écurie Charles Band avec Stuart Gordon, c'est David Schmoller. Et David Schmoller, en 79, il fait un film qui s'appelle Tourist Trap, qui là aussi est un film qui est... Bon, c'est pas un pur slasher, mais on est déjà dans une ambiance un peu slasher, un peu particulière, avec un Chuck Connors bien flippant, et puis une toute jeune Tanya Roberts, hein, également drôle de dame, hein, qui fut drôle de dame. Et David Schmoller, c'est quand même le mec qui a fait Fou à tuer, Puppet Master, Catacombs, The Arrival, qui sont quand même le haut du panier de la série B fauchée aux États-Unis. D'ailleurs, on oublie que c'est des séries B fauchées. C'est carrément des très bons films. Fou à tuer, vraiment un film sidérant, effrayant, qui est d'ailleurs disponible depuis chez Sidonis Calista, qui est ressorti dans une édition chez Sidonis Calista. Et puis Tourist Trap, donc c'est un de ses premiers travaux là, qui ressort chez Carlotta, mon cher Thomas, qui est un film que j'ai eu plaisir à revoir.
Oui, c'est un film assez surprenant parce que tu parles de Chuck Connors. Là. Bon, en fait, c'est une bande d'amis qui, je crois, ont une panne ou quelque chose comme ça et qui s'arrêtent dans une station-service. Et il y a une maison pas loin. Et le propriétaire les propose de les héberger pour la nuit. Et il a un musée de cire. Il leur fait visiter un musée de cire qui est assez étrange et qui est quand même un petit peu morbide. Hein, quand même. Et donc, ils vont passer la nuit chez ce bonhomme qui a l'air très sympathique, très avenant, hein, genre un cutéreux sympathique, quoi. Et puis, mais les choses ne vont pas se passer si facilement que ça. Et c'est un film qui est quand même qui arrive à installer une ambiance assez étrange, assez glauque. Hein. Plus on avance, et plus ça devient vraiment malaisant. Et ce personnage, on découvre très vite que Chuck Connors, hein, c'est pas une surprise que Chuck Connors, c'est un mec assez étrange et qui a un étrange pouvoir aussi, hein, si je me souviens bien. Et on découvre qu'il y a un lien avec cet étrange musée de cire. Et il y a des scènes assez glauques, notamment il a un atelier dans sa cave où il transforme les gens en mannequins de cire. C'est assez éprouvant, c'est assez glauque. Et tout ça, c'est très bien foutu. Et effectivement, on peut penser à Psychose aussi, cette maison reculée, ce personnage qui vit un peu en solitaire. Ça peut faire penser à Psychose. Et il installe une ambiance assez morbide, assez étrange, entre le fantastique et le fantastique et le film d'horreur. C'est vraiment une chouette surprise, un bon petit film d'horreur, ce Tourist Trap.
Et le film débute par un prologue avant qu'on voit ces petits jeunes arriver là où il y a un meurtre qui est incroyablement mis en scène, qui est terrifiant. Parce que le film a quand même un petit ventre mou à un moment, hein, mais on lui pardonne, c'est des petits films fauchés quand même, et c'est quand même le haut du panier, c'est quand même vraiment excellent. Bon, c'est un très bon metteur en scène, hein, Schmoller. Mais le premier meurtre là, qui intervient assez vite dans le film, tout de suite au début, et n'est-ce pas, John, il est marquant ce meurtre.
Marquant, et c'est là qu'on voit aussi l'apport de Pino Donaggio à la musique qui est toujours assez formidable. Mais surtout, dès cette première scène, le cadrage, comme aussi les sortes de poupées qui sortent comme ça, parce que des fois la musique s'arrête, on voit des choses dont on ne comprend pas tout de suite la mesure, on se dit tiens, c'est quand même assez étrange tout ça. Et ça instaure vraiment un climat très très étrange. Mais moi j'ai pris un pied énorme à revoir ça, puisque il y a des vrais personnages qui sont là. Il y a une des protagonistes qui va peut-être être attirée par le méchant du film. Il y a cette femme qui est refaite dans une sorte de d'enfoncement de mur qui, on le devine, était peut-être la femme de la personne qui accueille, et on appuie sur un bouton. Enfin, il y a toute une histoire de montage, de choses qui sont assez étranges et qui montent crescendo comme ça, quoi. Et on a ce côté très étrange. Et surtout, il y a le fantôme, pour moi, j'ai trouvé, de Massacre à la tronçonneuse dedans. C'est-à-dire que la maison fait étrangement penser à tout ça. On sait qu'on arrive chez quelqu'un qui n'est pas net, qui n'est pas normal. Et voilà, moi, j'ai adoré ce film-là. Et voilà.
Donc, on vous le conseille vivement. C'est chez Carlotta. J'ajouterais juste que vous pouvez réécouter une de nos anciennes émissions sur les films de Puppet Master, la série des Puppet Master, puisque cette obsession des automates, eh bien Schmoller va la sublimer dans Puppet Master, qui va devenir carrément une franchise de la série B horrifique reconnue dans le monde entier. Je vais passer une année maintenant et changer d'éditeur. Je vais aller chez l'Atelier d'Images pour vous causer des Chiens de guerre. Les Chiens de guerre, qui est un film de John Irvine sorti en 1980. Une coproduction entre les USA et la Grande-Bretagne, mais qui se passe un peu en France aussi d'ailleurs, hein, qui est ce qu'on appelle un film de mercenaires avec Christopher Walken en tête d'affiche.
Et même si on retrouve Jean-François Stévenin hein, dedans, voilà, mais c'est vraiment la tête d'affiche, c'est Christopher Walken qui dirige un groupe de mercenaires qui s'appelle Jamie Shannon et qui, comment dire, de retour d'Amérique du Sud, accepte une mission pour aller dans un pays qui s'appelle le Zangaro, qui est un pays fictif d'Afrique et qui, dans lequel il est censé renverser un dictateur pour en mettre en place un autre. Voilà, ça me rappelle un peu la réplique du dernier OSS 117, hein, quand le chef dit à Hubert Bonisseur de la battre. Bon, Hubert fait, enfin en gros, un peu ou prou, il lui dit ça. Hubert fait ce qu'il faut, mais surtout pas de coup d'État, parce qu'après il faut enlever un chef d'État, après il faut qu'on en remette un autre, alors ça nous coûte beaucoup d'argent à l'État français tout ça. Voilà, donc c'est pas l'État français, mais bon voilà. Et j'arrête de rigoler parce que c'est pas un film drôle d'ailleurs, et c'est un film photographié par Jacques Cardiff, qui avait réalisé l'un des premiers films sur le sujet, Le Dernier Train du Katanga, qui est un film, l'un des sommets du genre du film de mercenaires. Et moi, je trouve que ces deux films-là, Thomas, ce film de John Irvine et le film de Cardiff, ont pas mal de choses en commun, et en particulier le fait que c'est peut-être les deux meilleurs films de ce sous-genre de film qui est le film de mercenaires.
Les Chiens de guerre, en fait, c'est le premier long métrage de John Irvine pour le cinéma. Avant, il avait fait que de la télé, des séries télé, des téléfilms, etc. C'est son premier long métrage. C'est l'adaptation d'un roman de Frederick Forsyth qui raconte que pour faire des recherches pour son roman, il a rencontré des vrais mercenaires, des vrais trafiquants d'armes. Et plus tard, il a dit les trafiquants d'armes, c'est les gens les plus terrifiants que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et John Irvine aussi, c'est pas. Il vient pas de n'importe où parce que John Irvine, il a vraiment filmé la guerre. Et c'est vraiment un mec qui a été sur le terrain, il a vraiment filmé la guerre. Et je trouve que donc là, ça se ressent dans ce film. C'est un film qui, effectivement, tu l'as dit, Gégé, qui ne rigole pas. C'est un film, c'est sec, c'est violent, c'est âpre. Donc c'est l'histoire de James Shannon qui revient d'Amérique du Sud. Et lui, il veut raccrocher. Il veut retrouver une femme qu'il aime, puis éventuellement aller vivre une autre vie dans une autre région des États-Unis. Mais visiblement, ça ne se passe pas comme il veut. Et finalement, il accepte cette mission d'aller renverser un chef d'État qu'on imagine très inspiré par Idi Amin Dada ou Mobutu, etc. Hein. Donc, aller renverser un chef d'État avec son équipe. Et faut savoir que les scènes d'action, notamment la scène d'action finale, c'est réalisé par John Irvine. C'est pas une deuxième équipe, c'est lui qui réalise tout. Hein. Et donc c'est pour un premier long métrage. On voit bien déjà la patte de John Irvine, un cinéma sec, violent, qui ne fait pas de concessions par rapport à l'action. Comme on peut le voir plus tard, par exemple dans Le Contrat, un grand film avec Arnold Schwarzenegger, hein, n'est-ce pas, Jérôme?
Un film avec un scénario très ténu, en fin de compte, mais qui tient grâce à la mise en scène, qui est un bon film. Je suis d'accord avec toi, c'est un bon film. Hein.
Et faut savoir qu'en fait, Les Chiens de guerre a été réécrit par Michael Cimino. Et c'est Michael Cimino qui a incité John Irvine à prendre Christopher Walken. Parce que la coproduction américaine voulait un acteur américain, mais John Irvine n'était pas trop d'accord. Mais finalement, ils ont pris Christopher Walken, qui n'était pas très connu à l'époque et qui avait joué dans déjà Voyage au bout de l'enfer. C'est Michael Cimino qui a retravaillé le scénario, qui l'a conseillé à John Irvine. Et donc, par rapport à ce personnage interprété par Christopher Walken, je trouve que ce que dit John Irvine sur ses mercenaires, c'est que ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Ce sont des gens, il les dépeint comme des personnages solitaires qui, en fait, se donnent à fond dans leur boulot parce que, après moi, le déluge, quoi. Puis surtout, ils n'ont pas d'idéal, ils n'ont pas d'idéaux. Et ils se donnent à fond dans leur truc. Puis ils se disent, si on perd, tant pis, voilà. Et cette version avec Tom Berenger, qui apparaît peu et donc qui n'a plus sa femme non plus, pour moi, elle va dans ce sens, parce que le seul personnage qu'ils vont voir, que Christopher Walken va voir et qui refuse de les rejoindre, lui, il est marié. Et parce qu'il est marié, il ne veut pas quitter sa femme et ses enfants, il ne veut pas retourner dans l'enfer d'une nouvelle mission là-bas en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, effectivement, Les Chiens de guerre, c'est un film méconnu. Hein. Moi, il me semble que c'est un film méconnu. Mais en tout cas, pour moi, c'est un excellent film de John Irvine qui est à redécouvrir.
Je compléterai ta chronique, Thomas, en indiquant juste que la version longue est disponible dans cette édition de l'atelier, éditée par l'atelier d'images, qui est assez complète, justement, par le fait de nous proposer cette version longue que l'on n'avait pas vue donc, jusqu'ici. Vous écoutez Culture Prohibée. Nous venons de parler d'une coproduction USA-Grande-Bretagne. On va maintenant parler d'un film toujours dans la collection Midnight Collection de chez Carlotta Film, Inseminoid, un film de Norman G. Warren, un Briton spécialiste de la série B fauchée quand même, notre ami Norman G. Warren. N'est-ce pas, mon cher Thomas ?
Oui, Norman G. Warren, qui est connu pour plusieurs films d'horreur, plusieurs films fantastiques, mais aussi pour quelques polissonneries. Je pense que tu connais ces polissonneries, mon cher Gégé. Et donc là, Inseminoid est réalisé en 1981 et ce n'est ni plus ni moins qu'un succès d'année de Alien de Ridley Scott. Voilà, mais avec beaucoup plus de sexe, beaucoup plus polisson. Hein. C'est aussi beaucoup plus gore. Hein. Donc c'est fauché. Mais ça tient parfaitement la route, hein, c'est filmé en cinémascope, et c'est un film quand même assez glauque, hein, c'est quand même un peu glauque. Hein. Et donc c'est une expédition spatiale qui est sur notre planète et qui retrouve des traces d'une ancienne civilisation donc sur cette planète. Et qui explore tranquillement jusqu'à ce qu'il tombe sur un os quand même, des cristaux plus exactement. Et là ça va partir en sucette, si j'ose dire. Et notamment, il y aura une des membres de l'expédition qui va faire un rêve étrange où elle est violée par une étrange créature. Mais en fait, ce n'est pas qu'un rêve, parce qu'elle est vraiment violée, puis la créature la met enceinte. Et à partir de là, ça va vraiment mal se passer pour toute l'expédition. C'est entre le film fantastique et le film de science-fiction. Alors ça me fait beaucoup penser à Space 1999, hein, au niveau des décors, etc. Cette série télé avec Martin Landau, hein, qui est culte, hein, mais qui n'est pas allé au-delà de deux saisons. Il faut dire aussi que la deuxième saison était beaucoup moins bien. Et donc moi ça me fait beaucoup penser au décor lunaire de cette série. Donc on voit bien que c'est fauché, ça va être tourné dans une grotte ou quelque chose, hein, où ils ont ajouté quelques meubles, des trucs en plastique par-ci par-là. Et donc finalement, mais Norman G. Warren, il s'en sort très bien. Je trouve que le film est vachement bien foutu, c'est bien découpé et puis parfois c'est gore quoi, parfois c'est vraiment gore et c'est aussi malsain parce que cette scène de viol elle est quand même bien glauque, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi Gégé.
Bah, je pense que notre ami bouffe à tous les râteliers, hein. God Told Me Too de Larry Cohen, avec le viol en apesanteur, hein. Y a un peu de Rosemary's Baby, du Monstre Vivant aussi de Larry Cohen, il y a de tout, hein. L'ami Norman G. Warren, lui, il pique tout ce qu'il peut piquer, et puis à la fin, il fait le truc à sa sauce, hein, comme d'habitude, petit film fauché, mais qui ressort du lot par son côté un peu pervers, un peu étrange, un peu, voilà, parce que bon, le film a des longueurs, après c'est son casting le plus prestigieux quand même, il y a Jodie Gison qui est excellente, mais il y a surtout Stéphanie Bicam qui est quand même une actrice qui a une belle carrière quoi, hein. Bon, je sais pas comment elle est atterrée dans ce film, mais elle est là. C'est quand même le film
le plus, je pense, le plus gros budget de sa carrière, même si c'est fauché. Et effectivement, ce qui fait la différence avec plein de, d'autres films qui sont des sous-aliens, que je rapprocherais d'ailleurs, je rapproche peut-être plus de la Galaxie de la Terreur, par exemple, de Bruce Declark, dont on avait parlé, parce qu'il a cet aspect très, effectivement, très sexualisé, très pervers, du coup, qui fait que c'est une série B un peu à part, dont on se souvient, c'est du pur cinéma d'exploitation, toutes ces scènes sont complètement gratuites, faites pour faire venir le spectateur mal alpha dans les salles, hein, puis voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais effectivement, c'est bien troussé. Norman G. Warren sait y faire lorsqu'il s'agit de mettre en scène une production avec peu de moyens. Il sait rendre tout cela un peu rythmé, un peu instaurer une ambiance de suspense, tout ça, il maîtrise bien.
Parce que ses autres films sont un peu différents. D'habitude, il met un peu de l'humour, c'est un peu ironique, il dynamite un peu ses films. Enfin, il dynamite le fait que ses films soient un peu fauchés en faisant un peu de satire, d'humour, etc. Mais là, ça rigole pas du tout. Hein. Et c'est vraiment. Moi, je trouve que le film il est vraiment glauque de bout en bout. Et pour moi, c'est son meilleur film, je pense. Peut-être avec Satan's Slave, mais je pense que c'est son meilleur film en tout cas.
Ouais, donc totalement, je vous rejoins. Série B, bien troussée, fauchée, mais bien troussée. Moi, je retiens surtout deux grandes séquences. La poursuite du premier contaminé, qui est vraiment excellente. Évidemment, tu l'as dit, Thomas, le cauchemar, hein, qui est franchement glauque. Et surtout aussi dans le gore, le meurtre violent entre les deux femmes, qui n'hésite pas dans les effets vraiment gore. Sinon, voilà, ça remplit le contrat, c'est fun.
Moi, je vais vous parler d'un film sorti la même année, mais qui est un film un peu particulier, puisque c'est un film qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier, que nous rappelle très bien d'ailleurs dans les bonus Antoine Coppola, qui est historien et professeur de cinéma à l'université Sungkyung-kwan de Séoul, et qui est auteur du dictionnaire du cinéma coréen paru aux éditions Nouveau Monde. Alors, c'est un film qui est vendu comme le film qui a un peu lancé la K-Aurore. En fait, c'est un film qui surtout intervient dans un contexte particulier, comme nous l'explique Antoine Coppola. Alors, c'est embêtant. Enfin, si vous voulez, le truc qui est embêtant avec ce film, c'est qu'une fois qu'on a vu le bonus, on se dit « Mais oui !» Et du coup, le film prend une autre dimension, une autre saveur. Mais seulement, on ne peut pas avoir le bonus avant le film parce que sinon, toute l'histoire est spoliée dans le bonus, quoi. Donc, c'est un peu frustrant. Donc, je ne sais pas trop comment vous conseiller de regarder cette galette éditée par Carlotta. Est-ce que vous commencez par les bonus ? Est-ce que vous commencez par le film ? Ou alors, ben, soyez fous, faites comme moi, vous regardez le film, vous regardez les bonus, puis vous regardez le film, du coup, ensuite. Parce que, la première vision, moi, je vous l'avoue, je vois ce film, je me dis, mais qu'est-ce qui a pu générer ce culte autour de ce film ? Hein, l'histoire, c'est simple, hein, c'est une femme qui est l'épouse comblée d'un professeur de biologie, ils ont une petite fille qui est charmante, ils vivent dans une maison un peu reculée, une très jolie maison, elle, c'est une parfaite femme au foyer. Et puis ce mari biologiste, il revient avec une femme, Miyok, une jeune orpheline, très jolie, hein, et qui prend comme domestique, jeune orpheline qui ne se sépare pas d'une étrange poupée en bois censée la protéger contre le mauvais sort. Alors, c'est aussi la fille d'un chaman, et elle est très mutique. Et il va y avoir conflit entre cette femme, une sorte d'attirance, répulsion. Elle va croire que cette femme, c'est le mal qui arrive dans le foyer et que les esprits maléfiques vont entrer dans la maison pour détruire la famille. Et la première fois que je vois ce film, je me dis « Oh bon, ouais, c'est sympathique, mais bon, c'est quand même fauché, c'est quand même... c'est un petit film d'exploitation sympa, mais voilà, ça va pas au-delà. » Et puis je regarde les bonus et là, je vois Antoine Coppola qui nous explique un peu comment le film s'est fait, dans quel contexte. C'est-à-dire qu'on est un peu, là on est en Corée, un peu entre deux dictatures, hein, où une fois de plus, il y a eu on est à la fin au début des années 80, où le précédent dictateur a été saqué, éliminé, et puis le nouveau pouvoir qui se met en place, dit maintenant, bon avant on n'avait pas le droit de montrer ça au cinéma, maintenant vous avez le droit de montrer de l'héroïne
l'érotisme, vous n'avez pas le droit de critiquer ça, mais vous avez le droit de mettre tel ou tel sujet dans le film. Alors, je peux pas vous dévoiler le film, donc du coup je peux pas vous dire grand chose. Ça peut paraître assez mystérieux ce que je vous dis là, mais du coup ça donne un tout autre sens au film qui par là va pouvoir acquérir une dimension en plus avec un petit sous-texte politique qui est pas inintéressant et qui donne au film effectivement une autre dimension. Et puis en plus c'est un film là étonnamment sensuel. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'un pouvoir très autoritaire dit quand même au metteur en scène les gars, maintenant vous allez pouvoir montrer de l'horreur et du cul. C'est quand même très étonnant, hein, voilà. Vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, mais alors par contre les femmes à poil et puis les meurtres et tout ça, il n'y a pas de souci, voilà. Et du coup, bah, le réalisateur qui est malin, bah, il tire son épingle du jeu et il fait un film qui est un pur film d'exploitation, hein. Alors, l'érotisme est très gentil, on est en 81, on est sous un régime très très autoritaire, évidemment vous n'allez pas voir un déferlement, c'est pas les films de Damiano qui débarquent en Corée, hein, voilà. Mais il y a vraiment cet étrange mélange érotisme-horreur, mais à travers le prisme de la société coréenne, du coup, qui est assez étonnant, puisque c'est pas une vision classique comme on en voit nous dans nos films d'exploitation. Et malgré tout, tout y est, hein, c'est-à-dire les plans érotiques, est-ce qu'elle a peur d'elle, est-ce qu'elle a peur de son lesbianisme, est-ce qu'elle a pas plutôt envie de coucher avec elle, est-ce qu'elle a peur d'être cocu, ou est-ce qu'elle a peur de tomber amoureuse de cette femme qui est désirable, hein, est-ce que cette femme est vraiment maléfique, est-ce que cette poupée est vraiment maléfique. Alors oui, elle est maléfique, évidemment, puisque c'est un film fantastique. Et puis le réalisateur, il a pas beaucoup de moyens, mais il fait tout ce qu'il peut pour faire des scènes choc. Il utilise, moi j'aime bien le côté, son montage, son découpage est quand même très travaillé. On sent que c'est des petits budgets, il a dû faire le découpage en amont, et du coup le découpage est très travaillé. Et puis il y a des scènes qui évoquent la montée, enfin des montées de désir en utilisant des images kaléidoscopiques, tout ça, qui sont assez intéressantes. Donc effectivement, alors comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas le chef-d'œuvre, hein, que semble auquel on pourrait s'attendre. On va pas découvrir une perle, un chef-d'œuvre absolu comme on a pu en découvrir dans d'autres éditions sorties par Carlotta ces dernières années. Non, c'est une série B, voilà, de très bonne facture et qui est quand même, excusez-moi, mais qui est quand même très particulière, puisque c'est un mélange d'érotisme, de sorcellerie, de chamanisme et de poupées maléfiques. On en a pour notre argent quand même en termes de série B. Donc je vous le conseille vivement, parce que le film, comme je vous l'ai dit, effet visuel très, très sympa, et puis gros travail sur le son, en particulier sur la réverbération, tout ça. Enfin, il y a un gros boulot qui est fait par le metteur en scène pour instaurer une ambiance un peu flippante, qui passe très bien et a bien supporté l'épreuve du temps, en fait, et ça donne un film qui a une patine toute particulière et que donc je vous conseille vivement. Ça s'appelle Soudain dans la nuit, c'est de Go Yeong Nam, c'est sorti en 81 et je sais pas si c'est un classique de la K-horreur, mais je comprends en tout cas que le film ait pu générer un tel engouement, puisque c'est quand même un exemple de ce que le cinéma d'exploitation coréen pouvait produire, je pense, dans le meilleur du panier, quoi. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut trouver de mieux dans le cinéma d'exploitation coréen de l'époque.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial cinéma d'exploitation.
Alors nous allons terminer ce voyage dans le cinéma d'exploitation par un film plus récent. Alors, on l'a gardé pour la fin parce qu'on en a déjà parlé. On avait fait une émission spéciale Gary Sherman la saison précédente. On l'avait un peu évoqué. C'est Mort ou Vif, Wanted Dead or Alive,
de Gary Sherman, donc un film de 86 avec Rutger Hauer. D'ailleurs, il paraît que ça a été compliqué sur le tournage entre Gary Sherman et Rutger Hauer, qui est une sorte de... Ben, vous connaissez tous Steve McQueen, Au nom de la loi, qui est une sorte d'hommage. Hein, ça, c'est pas Josh Randall, là, il s'appelle Nick Randall. Et il est devenu chasseur de primes, il travaille avec la CIA. Et puis un jour, ben, évidemment, il est confronté à Malak al-Haim, qui est un très, très, très méchant terroriste, bien évidemment. Et surtout que la CIA va l'utiliser comme appât. Et ça, il ne va pas trop aimer notre ami Nick Randall, sans compter qu'en plus, son entourage va être décimé hein, à cause de tout cela. Donc ça va le mettre grave en colère. Et bah, le film va aller crescendo jusqu'à un final d'une grande subtilité quand même, mon cher Thomas, qui est quand même qui en fait un film vraiment typique. Ça pourrait être produit par la Canon quasiment, quoi.
Mais tout le film est d'une grande subtilité, GG. Moi, je trouve vraiment pas ça terrible. Hein. Je trouve que c'est rempli de clichés. Puis je trouve que c'est pas très bien fait, en fait. Je trouve que le film il est un peu poussif. Je trouve pas que les scènes d'action soient extraordinaires. Mais il y a ce passage qui est quand même assez étrange, où il plastique un cinéma où il joue Rambo. Et dans ce cinéma, évidemment, qui va voir Rambo, bah, des enfants. Donc, je veux dire, le film, il tient pas la route, quoi. Enfin, juste, rien que pour ça, le film, pour moi, il perd en crédibilité, mais alors totale, quoi. Mais ouais, plusieurs fois, j'ai voulu redonner une chance à ce film, mais non, il n'y a pas moyen, quoi. C'est vraiment pas un bon film.
Je te trouve un peu dur. Or, ce n'est pas un grand film, on est d'accord. On sait aujourd'hui que Gary Sherman et Rutger Hauer, c'était très tendu. Et que Gary Sherman n'a pas maîtrisé grand-chose sur le film, en fait. Hein. Mais bon, tu parlais des enfants. Les enfants, ils prennent cher dans ce film, quand même. Il y a la petite patte, quand même, un peu sadique de notre ami Gary Sherman, hein, quand même. Hein. Mais après, le film est quand même assez spectaculaire. Il y a beaucoup de scènes d'action. C'est quand même assez violent. Après, je pense que le principal handicap du film, en dehors de son scénario qui, c'est clair, est un scénario bas du front, voilà. Mais le principal défaut du film, c'est Rutger Hauer, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'est pas... Il n'est pas adapté à son personnage. Il surjoue un peu. Je ne sais pas, je ne trouve pas crédible dans ce rôle de chasseur de primes. Je ne sais pas, moi, j'aurais vu un acteur qui fait plus cow-boy, quoi, qui fait plus... voilà, un mec à la Clint Eastwood, voilà. Enfin, en 87, il s'embêtait déjà plus beaucoup avec ce genre de rôle. Mais en tout cas, un type qui fait plus rustique, Rutger Hauer, il n'a pas le physique de l'emploi, quoi. On a l'impression qu'il sort de Blade Runner, quoi. Et puis qu'il débarque là, peroxydé, et puis tout fait cliché, son truc, sa vie sur le bateau, sa petite copine, tout ça, tout fait cliché. Mais par contre... ça envoie du lourd et puis le ça tabasse, quoi, ça n'arrête pas. Il y a tout le temps de l'action, mais et puis le final vaut bien celui d'un film meilleur d'ailleurs, hein, qui est un peu sous-estimé par contre pour le coup, mais vaut bien le final du Cobra de George Pancosmatos. C'est on est un peu dans cet état d'esprit quand même, voilà.
Ah, c'était un grand cliché dans les années 80, dans les films d'action, le final qui se déroule dans une usine désaffectée ou même désaffectée ou pas, quoi. Ça, c'était un gros cliché, ça.
Oui, et puis ça, et puis la décision du héros à la fin, qui est aussi un truc bah, qui est dans le film de James Beharis dans Cop, qui est dans ce film-là, donc, qui est dans le film dont je parlais précédemment, voilà, Cobra de George Pancosmatos. Bon, c'est un truc qui revient souvent. Alors, c'est assez jouissif, mais c'est très bas du casque. Voilà. Donc, bon, c'est pas le meilleur film de Gary Sherman. Mais si vous voulez voir un film d'exploitation des années 80, mais vraiment typique des années 80, dans le sens idéologique du terme, vous ne serez pas déçus, parce que c'est quand même bien au-dessus de la majorité des productions Canon. On va dire que c'est l'équivalent d'une production Canon haut de gamme. Death. The sin.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. John Ferret, dit L'Homme Mystère. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Chase, time's running out, and the youth.